Radio Kapi.
Oh, Kapi. Patience, Ngalula, à la présentation de ce journal. À la une de ce journal, l'Organisation mondiale de la santé déclare l'épidémie des monkeypox ou variole des singes une urgence de santé publique de portée internationale. Elle prend en exemple la République démocratique du Congo qui enregistre déjà plus de 500 décès. Affrontement hier mercredi entre la milice dénommée Mai Mai Ira et les forces armées de la RDC dans la localité de Kasuho, au Nord Kivu. Un civil tué, des blessés et une position de FRDC incendiée, tel est le bilan provisoire. Radio Kapi reçoit comme invité Doris Ndaya, une jeune fille qui évolue dans le domaine de l'agro-transformation en Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Bonjour. Vous le savez, les monkeypox ou la variole des singes a été déclarée mercredi une urgence de santé publique de portée internationale par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans un communiqué publié par son organisation. La recrudescence des monkeypox en RDC et dans un nombre croissant des pays d'Afrique constitue une urgence de santé publique de portée internationale en vertu du règlement sanitaire international de 2005. L'émergence de nouveaux clades des monkeypox, sa propagation rapide dans l'est de la RDC et la déclaration des cas dans plusieurs pays voisins sont très inquiétantes. En plus des épidémies, d'autres clades de monkeypox en RDC et dans d'autres pays d'Afrique, il est clair qu'une réponse internationale coordonnée est nécessaire pour arrêter ces épidémies et sauver des vies, déclare le docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. À juste titre, 4 nouveaux cas de monkeypox ou variole des singes ont été enregistrés au cours de ces mois d'août dans la zone de santé de Masisi, ce qui porte à un total de 63 cas enregistrés depuis la déclaration de cette épidémie début juin dernier dans la province. En ce jour que cette maladie est déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS, la coordination provinciale de la riposte exprime ses inquiétudes. Bernardin Nyangui.
Alors qu'à l'annonce de l'apparition de cette maladie le 2 juin, seulement 8 personnes étaient touchées dans 3 zones de santé, à savoir Goma, Karisimbi et Nyiragongo. Le coordonnateur du programme national de communication pour la promotion de la santé au Nord Kivu s'inquiète. En effet, à présent, la 4e zone de santé de la province, celle de Masisi, s'ajoute à la liste. Selon Désiré Bouyana, les 4 nouveaux cas enregistrés cette semaine dans cette zone de santé rurale portent à 63 le nombre de cas de malades de cette variole des singes dans la province du Nord Kivu. S'il ne fournit pas encore de chiffres actualisés sur le nombre de personnes guéries à ce jour, celui-ci ne cache pas son inquiétude face à la propagation de cette maladie. Les déplacés fuyant les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 sont particulièrement frappés par cette maladie, notamment dans les sites des fortunes autour de Goma et ses environs. Pour Désiré Bouyana, l'hôpital provincial de Goma et d'autres structures de santé prennent en charge ces malades. Toutefois, en ce jour où l'OMS déclare cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, il estime que la riposte devrait être renforcée. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, les violences continuent de faire des victimes. Mercredi, un civil a perdu la vie et une position des FRDC a été incendiée lors d'une attaque attribuée à la milice locale Mai Mai Ira à Kasuo, une localité du territoire de Lubero. 2 autres personnes ont été blessées par balles, selon la société civile locale. Après une intervention musclée des FRDC, le calme est revenu dans la zone. Les explications d'André Kitenge.
Les affrontements ont éclaté mercredi aux alentours de 14h, opposant un groupe présumé de la milice Mai Mai Ira aux soldats des FRDC déployés à Kasuo, une localité de la chefferie de Batangi, située à environ 45 km de Lubero centre. Selon des sources locales, les miliciens ont pris d'assaut une position des FRDC, entraînant un bilan provisoire d'un civil tué, de 2 autres blessés par balle et d'une position des FRDC partiellement incendiée par les assaillants. Cette attaque a provoqué une paralysie totale des activités socio-économiques et un déplacement massif des habitants vers des villages voisins jugés plus sûrs. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, a confirmé que le calme est revenu après une intervention musclée des FRDC qui ont réussi à mettre les assaillants en déroute. Toutefois, un chef de la milice locale initialement capturé a réussi à s'échapper, précise-t-il. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Pendant ce temps, une autre attaque a eu lieu sur un camion transportant du carburant et a fait 2 morts et 2 blessés hier mercredi à Katuguru, à 20 km au nord-est de la cité de Kiwanja, territoire de Rutshuru. Nous sommes toujours au nord Kivu. Cette attaque est intervenue quelques heures après un affrontement entre les Wazalendo et le M23 à Mirambi, à environ 5 km du lieu de l'incident avec les camions essence. Affrontement qui aurait fait aussi des victimes dans les deux camp, Denise Lukeso.
Selon des sources concordantes à Nyamilima et à Kiwanja, les camions provenaient de Ishasha à la frontière congolo-ougandaise où il est allé s'approvisionner en carburant pour Kiwanja. Il transportait des tanks en plastique de carburant quand il a été attaqué par des hommes armés à Katuguru aux heures matinales d'hier mercredi. Ces hommes armés auraient lancé une roquette sur le véhicule, tuant sur les champs les conducteurs et d'autres passagers à bord. Les uns parlaient de 2 morts alors que d'autres sources confirment la mort de 5 personnes. Le véhicule appartenant à un commerçant de Kiwanja a été totalement calciné. Difficile d'attribuer cette attaque, la zone étant actuellement sous occupation de plusieurs groupes armés, FDLR, Mai Mai, Wazalendo et le M23, qui s'affrontent régulièrement. Rappelons que plusieurs localités du groupement Binza restent sous occupation rebelle. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Dans cette optique, le député national Gratien Irachan, qui est en vacances parlementaires à Bounia, lance un appel aux différents groupes armés locaux de déposer les armes car la population est fatiguée de la guerre. Il l'a dit au cours d'un point de presse mercredi à Bounia, dans l'Ituri. Cet acteur politique de l'opposition indique que l'insécurité qui persiste depuis 7 ans a des conséquences graves sur l'économie de la province. Les activités agricoles, minières et des pêches et élevages sont paralysées dans plusieurs localités occupées par des miliciens. Face à ces défis, la solution durable est la restauration de la paix qui est tributaire de la prise de conscience par le fils de l'Ituri qui ont pris les armes. Gratien Irachan est au micro d'Isaac Rimoyopé.
On a besoin de la paix. Cette province d'Ituri, nous avons besoin de la sécurité. Je lance l'appel à mes frères qui sont dans les groupes armés de cesser à martyriser la population, de cesser à tuer la population. Mes frères, quittez la brousse, laissez la paisible population vaquer normalement. Notre économie en Ituri, c'est l'or, c'est l'agriculture, c'est la pêche. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où les gens ne font plus l'exploitation de l'or parce que partout c'est l'insécurité. Nous sommes arrivés à une étape où l'agriculture n'est pas négligeable, ne produit plus à cause de l'insécurité. Nous n'avons pas la même réalité que le Nord Kivu où il y a des groupes armés étranges. Ici, ce sont nos fils qui sont en train de détruire la province. Mes frères, en tout cas, c'est bon d'abandonner cette affaire-là. Ne cherchez pas trop de revendications. Vous avez fait ce qui s'est passé. Laissez, ne tuez pas, revenez regagner le processus de paix pour que nous puissions revenir en brousse pour cultiver, revenir pour exploiter l'or, pour que les choses aillent de l'avant.
Direction la province du Haut-Katanga, où 20 présumés bandits répartis dans plusieurs groupes ont été présentés ce mercredi par les commissaires provinciaux de la police au vice-gouverneur. Ils sont accusés notamment des vols, des viols, des meurtres. L'autorité provinciale a demandé qu'ils soient déférés devant la justice et que les coupables ne se retrouvent plus en circulation, mais que chacun réponde de ses actes. Un reportage de Jean Gandou.
C'est dans l'enceinte du gouvernorat de province que cette présentation a eu lieu. Il y en a qui opèrent avec des armes à feu, d'autres avec des armes blanches dont certaines étaient teintées de sang. Devant le vice-gouverneur, le colonel Évariste Kilongo du groupe d'investigation et de recherche criminelle de la police relate.
Ce monsieur fut le chauffeur de l'endroit où ils sont allés visiter. Il a informé aux siens que ce monsieur-là a l'argent. Quand ils sont descendus sur le terrain, ils ont volé les biens. Ils ont violé 2 de ses filles. La dernière balle, c'est celui de ces policiers déserteurs, sans unité, porteurs d'une arme, voleurs à main armée. Voici les effets de la police qui ont été saisis.
Séance tenante, certains sont passés aux aveux. Tel que nous sommes, nous ne faisons rien d'autre que d'entrer dans des maisons d'autrui pour voler. Sur RICIS, nous étions au nombre de 15 et avions volé $900 et un ordinateur. L'homme qui est à côté de moi est celui qui a violé les deux filles. D'autres encore, larmes aux yeux, clamaient leur innocence. Pour le vice-gouverneur, c'est devant la justice que cette innocence devra être prouvée. Martin Kazembe a demandé à la justice de bien faire son travail. La province envisage comment envoyer ceux qui seront condamnés dans d'autres prisons de la République pour y purger leur peine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Comme vous le savez, la ministre nationale de l'EPST a signé un circulaire concernant un certain nombre de mesures à observer dans les écoles avant la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Parmi ces mesures, l'inscription gratuite des élèves, la liberté des parents de se procurer les fournitures scolaires, dont les uniformes. Sur terrain, c'est le contraire qui est observé. Les parents payent dans certaines écoles l'inscription et la confirmation des places de leurs enfants. C'est le cas dans la province du Maniema où les parents haussent les tons et appelle les autorités scolaires à faire le suivi de cette mesure de la ministre des tutelles. Florence Kizalunga a fait les tours des écoles, suivez son reportage.
Plusieurs parents qui ont déjà inscrit leurs enfants que nous avons contactés affirment qu'ils ont payé des frais avant de les inscrire. Ils disent que des mesures pareilles sont prises chaque année, mais ne sont jamais respectées. L'un d'eux témoigne.
Nous venons de payer $15 pour l'uniforme, les cahiers de communication. Nous venons de confirmer les enfants avec 16 500 et les nouveaux venus payent 18 000. Certainement, la ministre est dans la théorie et qu'au niveau des provinces, on n'applique pas ça. Et quand on revient sur ça, les propriétaires des écoles nous disent que allez construire votre école ou bien allez inscrire l'enfant dans l'école du ministre.
Pour les écoles, ces frais leur permettent de bien préparer la rentrée scolaire car le gouvernement n'envoie pas régulièrement les frais de fonctionnement.
Parce que nous n'avons pas les frais de fonctionnement, c'est pour cela que nous faisons payer ces frais-là. Et pourtant que le gouvernement devrait nécessairement nous aider en nous donnant ces frais pour que nos enfants puissent bien étudier dans de bonnes conditions. Comme le gouvernement ne nous donne pas ces frais-là, et c'est pour cela que nous sommes obligés de collecter ces frais, ainsi pour bien préparer la rentrée scolaire.
Les parents suggèrent aux autorités scolaires de descendre sur terrain pour se rendre compte de cette situation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pareil à Matadi au Congo central, certaines écoles publiques conditionnent les inscriptions des nouveaux élèves par l'achat à 15 ou 20 000 francs congolais d'un cahier de communication et du journal des classes. C'est ce que révèlent les parents qui inscrivent leurs enfants à ces écoles. Pour eux, cette pratique viole les dispositions arrêtées par le ministère de l'EPST en rapport avec une rentrée scolaire apaisée. Pour les directeurs de la province éducationnelle Congo central 1, John Bopilo, aucun chef d'établissement n'a été autorisé à percevoir l'argent auprès des parents sous aucun prétexte. Des détails, Nana Pluriche Mambou.
Parmi les écoles publiques citées par les parents, où les inscriptions sont conditionnées par l'achat des cahiers de communication et du journal des classes, figure l'Institut Lisanga. On écoute les témoignages de l'un des parents qui a inscrit son enfant dans cette école.
Pour inscrire mon enfant, on m'a demandé 15 000 francs. Ils ont dit que c'est pour les cahiers de communication et le journal des classes. Au marché, je peux acheter à 2 000 francs.
Les allégations de ses parents sont rejetées en bloc par les responsables de l'Institut Lisanga. Pour eux, l'école vend des cahiers de communication et les journaux des classes ainsi que des tenues, mais c'est facultatif. Clément Mata en est le directeur des études.
Les inscriptions ont toujours été gratuites. Ils veulent acheter les journaux des classes et les communications et les leçons. Sinon, ils peuvent acheter à la cité. Nous n'imposons pas.
Contactés, les prophètes du Congo central 1 indiquent qu'en cette période des inscriptions, sous aucun prétexte, les chefs d'établissement doivent percevoir l'argent auprès des parents. John Bopilo.
Je n'ai autorisé aucun chef d'établissement de vendre les cahiers de communication. Il doit y avoir des sanctions contre tout chef d'établissement qui obligera à un parent d'acheter les manuels scolaires ou les cahiers de communication dans une école.
D'après certaines sources, certains responsables des écoles exigeraient un montant allant de 30 à 50 dollars avant d'inscrire les élèves qui n'ont pas de dossier. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Et puis cette nouvelle, la première ministre Judith Suminwa veut que Kinshasa redevienne une ville où il fait beau vivre. La chef du gouvernement a eu une séance de travail hier mercredi avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa sur les différents maux qui détériorent la qualité de la vie dans la capitale. À cet effet, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et les gouverneurs de la ville ont expliqué chacun en ce qui les concerne les problèmes auxquels il faut vite s'attaquer pour des solutions idoines. Reportage de Jeff Ngoy.
La rentrée scolaire de septembre, c'est bientôt. Le gouvernement tient à prévenir les difficultés qui en découlent. Il faut relever les défis d'insécurité, de mobilité et d'insalubrité, mais aussi réhabiliter le réseau routier délabré de Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani.
En termes de sécurité, de salubrité, voirie urbaine, Madame le Premier ministre a tenu à ce que le gouvernement central, sur toutes ces questions, vienne en appui à la ville de Kinshasa, parce que c'est la capitale. Vu aussi les difficultés que traverse le gouvernorat, il était important que ce miroir de la République soit soutenu par le gouvernement central.
La Première ministre est interpellée sur le fait que les Kinois vivent des moments particulièrement difficiles. Elle promet d'appuyer les efforts du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour redorer l'image de la capitale.
Pour solutionner la question de l'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Nous sommes appuyés sur des solutions immédiates. Nous avons aussi ouvert des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. Donc, population de Kinshasa, il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire.
Selon la Première ministre, la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable.
Actualité internationale.
La France a commémoré le 80e anniversaire des débarquements en Côte d'Azur des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale pour repousser les nazis avec des événements jeudi qui ont particulièrement honoré les nombreux soldats d'Afrique envoyés par les colonies françaises de l'époque qui y ont participé. Parfois appelé les jours J oubliés, l'événement a été marqué par des cérémonies présidées par le président français Emmanuel Macron. Des avis des tempêtes jeudi autour de la côte méditerranéenne ont forcé c'est l'annulation d'une partie maritime des événements.
L'invité.
Doris Ndaya est une jeune opératrice agricole évoluant en Bougimaï dans les Kasaï orientales. Après avoir obtenu sa licence en sciences commerciales et administratives à l'ISP de Mbujimaï, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans les domaines de l'agro-transformation. Esther Dalafina s'est entretenue avec elle après son intervention sur les rôles de jeunes dans la transformation des systèmes alimentaires lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Suivez.
Madame Doris Ndaya Chitenda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes intervenue dans la journée d'échange et vous avez parlé de votre situation, de votre entreprise.
Oui.
Évolue dans quel domaine?
Mon entreprise évolue dans les domaines d'agro-transformation. Parlant de l'agro-transformation, nous participons à toute la chaîne de valeur. Nous avons nos champs à Bakwandaba précisément, dans les territoires de Chiling, hein, où nous cultivons les maïs. Après avoir cultivé ces maïs, nous récoltons cela. Et après la récolte, nous passons à la phase de la transformation. Nous conditionnons nos maïs en farine de maïs, afin de mettre les produits finis à la disposition des consommateurs.
Oui, nous avons vu les échantillons de la farine que vous produisez. Voyons aussi qu'il y a vos propres emballages avec la mention de l'entreprise. Comment est-ce que vous avez fait pour conditionner cette farine et avoir ces emballages?
Oui, c'est à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse que nous sommes réunis au nom de l'institution AALI. Moi, étant jeune, je me suis dit que je dois apporter aussi un changement dans mon environnement. Ce qui est le conditionnement du maïs, nos emballages, nous avons aussi essayé d'innover en partant de ce que nous sommes en train de vivre. On a innové en pensant aux emballages. Nous faisons commande. Alors nous demandons aux autorités s'ils peuvent s'impliquer afin de nous faciliter aussi à avoir accès aux machines là qui peuvent nous permettre à nous-mêmes d'imprimer ces emballages sans faire recours ailleurs. Les emballages jusque-là, nous faisons commande à l'extérieur. Alors Notre souci est de commencer à les produire ici localement, comme le maïs, on les produit localement, on les transforme localement. Et si les emballages sont produits localement, ça sera une très bonne chose pour nous en tant que jeunes.
Oui, vous êtes une jeune licenciée en sciences commerciales et aujourd'hui, vous vous êtes adonnée à l'agriculture. Comment expliquez-vous cela?
Oui, je suis licenciée en sciences commerciales administratives. J'ai fait l'ISP. Après mes études, j'ai fait un constat de voir que nos prédécesseurs, ils terminaient les études et ils restaient croisant les bras en disant qu'on attend de l'offre, on va nous recruter, l'État va faire ça. Quand nous avons vu que l'État, à son tour, il ne réagit toujours pas, nous avons choisi nous-mêmes créer de l'emploi. Enfin de lutter contre cela, enfin de lutter contre la pauvreté, le chômage dans notre milieu. Nous sommes dit, nous, on est jeunes, on n'a pas à attendre que l'État vienne, mais nous, nous devons aider l'État. C'est comme ça que je me suis lancée dans ce secteur. Je ne me suis pas lancée par complaisance et ce secteur m'apporte beaucoup plus. Ce secteur m'aide aussi à couvrir certains besoins et moi-même, je suis aussi satisfaite.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée dans votre domaine?
Ah oui, nous faisons face à beaucoup de défis. Le défi majeur, c'est qu'on n'a pas accès aux engins pour labourer les sols de l'autre côté de Bakwandaba. On fait recours, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Les autorités promettent. En tout cas, nous avons besoin des engins et aussi des engrais qui peuvent aussi améliorer notre production.
Sur place, là où vous exploitez, avez-vous d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Oui, nous avons ces difficultés. Les routes ne sont pas vraiment praticables. Quand nous ramenons les maïs pour les conditionner, il faut les courants. Alors, s'il y a coupure d'électricité, nous tous, nous sommes condamnés à attendre. Alors, nous demandons à ce qu'on puisse revoir cet aspect des choses, nos routes et puis l'électricité aussi. Ça joue un grand rôle dans ce que nous sommes en train de faire.
Et quels conseils pouvez-vous donner à d'autres jeunes de votre âge qui ont fini les études mais qui ne font rien absolument?
Je demanderai aux jeunes, cette journée ne doit pas être juste une date. On a la joie de dire c'est notre journée de la jeunesse, mais cette journée doit nous interpeller. Nous devons prendre conscience de nos responsabilités. Étant que jeunes, nous avons de l'innovation. Passons à l'action. Au lieu d'attendre que l'État vienne nous stimuler, c'est nous qui pouvons faire pression à l'État. Si l'État nous va, nous-mêmes nous sommes conscients, l'État à son tour, il fera de son mieux pour remédier à ce que nous faisons face comme défi dans nos différents domaines. Alors, je n'ai pas voulu croiser les bras personnellement. Je me suis dit, je dois entreprendre, je dois créer de l'emploi. Pour ceux qui ne veulent pas et pour ceux qui tardent encore les pas, je vous encourage de passer à l'action parce qu'en passant à l'action, on répond nous-mêmes à nos besoins.
Doris Ndaye, je vous remercie.
Merci.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Debs Vita, supervisée et coordonnée par Martin Sebudjangwe et Blaise Shindani Kambala. Je suis Patience Ngalulambombo au micro. À vous tous, merci de nous avoir suivis.